Il est 7h10, bienvenue à celles et ceux qui se réveillent maintenant. On parlait justement de vous il y a une heure, mais en bien, hein, pas parce qu'on est jaloux que vous dormiez plus que nous.
Non, c'est ça.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Contrairement à moi, elle n'est pas rancunière, c'est Valérie Blum qui nous présente le flash. Bonjour Valérie.
Bonjour. Malgré les incertitudes liées à la situation économique et mondiale, la municipalité d'Aigle a présenté hier un budget 2023 dit équilibré. Il affiche un excédent de charges de près de 295 000 francs sur une enveloppe totale de 51 millions. La commune entame tout de même un cycle d'investissement important avec 11 millions de francs qui seront injectés dans les infrastructures et 9 dans les bâtiments. Les dépenses prévues à court, moyen et long terme, soit jusqu'à l'horizon 2025 s'élève à 132 millions de francs nécessaires, selon Jean-Luc Duroux, municipal Aiglon chargé des finances.
On a un plafond d'endettement qui a été fixé pour la législature de 135 millions. Ça, il est clair qu'on est très, très attentif à ne pas le dépasser. Mais en parallèle, on doit quand même procéder à ces gros investissements. Je pense notamment à la rénovation complète de l'hôtel de ville. Je pense à nos routes. Je pense à l'espace événement Glarier que le peuple a voté et qui doit se réaliser prochainement une fois que toutes les procédures administratives et juridiques seront terminés, donc on doit bien garder ça en mémoire pour pouvoir planifier ça, le financer et le lisser dans le temps pour assumer cette charge pour la commune.
Le budget 2023 du chef-lieu du Chablais vaudois sera soumis au vote du conseil communal le 17 novembre prochain. Un sujet signé Thierry Nicolet. Le canton de Vaud a dévoilé hier son programme de législature 2022-2027. Fruit d'un travail collégial, cet acte fondateur du gouvernement comporte une quarantaine de mesures avec une thématique récurrente, les enjeux climatiques. Pour Nouria Gorité, conseillère d'État chargée des infrastructures, les investissements dans les transports publics vont se poursuivre. Pour développer l'offre et l'accessibilité, le conseil d'État compte mettre en place des facilités tarifaires. Nouria Gorité.
L'objectif ici, c'est véritablement non seulement de développer l'offre en service public, mais aussi de les rendre accessibles financièrement, principalement pour les jeunes jusqu'à 25 ans et puis pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des bons à faire valoir pour tout achat d'un abonnement Mobilis annuel ou que vous soyez dans le canton, à faire valoir. Et ils sont équivalents d'un montant d'environ 230 francs par jeune et de 335 francs par personne âgée. C'est concrètement de l'argent qu'on remet dans la poche des gens. C'est une mesure de soutien au pouvoir d'achat, donc c'est une mesure sociale, mais c'est aussi une mesure en faveur du report modal, donc une mesure en faveur du climat. Et puis enfin, c'est aussi un petit coup de pouce aux communes, parce qu'aujourd'hui, les communes, elles payent les abonnements des scolaires, et puis on en prendrait en charge un bout.
Nouria Gorité au micro de Julie Gay. Ce programme de législature a été accueilli de manière mitigée par les différents partis. Le PS et les Verts saluent certaines mesures, mais regrettent le manque d'ambition sur le plan climatique. À droite également, l'Alliance vaudoise déclare qu'elle attendait des annonces plus fortes en matière de durabilité notamment. La course à la succession de Simonetta Sommaruga s'est ouverte avec l'annonce mercredi dernier de la démission de la conseillère fédérale socialiste. La direction du PS veut présenter un ticket 100% féminin, mais pour l'instant, aucune candidate ne s'est officiellement déclarée. La démission de Simonetta Sommaruga a pris de court le parti, raison pour laquelle plusieurs personnalités prennent encore le temps de la réflexion. Parmi les éventuels papables figure la conseillère aux États baloise Eva Herzog, considérée comme l'une des favorites. Trois autres candidates alémaniques réfléchissent encore, les bernoises Flavia Wasserfallen et Evi Allmann, ainsi que la turgovienne Edith Graflitscher. Une seule romande est encore en lice pour l'heure, la jurassienne Elisabeth Baumschneider. Quelle alimentation veulent les citoyens suisses? Plusieurs organisations ont choisi un processus original pour apporter des réponses. Elles ont constitué une assemblée citoyenne de 80 personnes tirées au sort, mais représentatives de la diversité de la population. Cette assemblée a travaillé durant 6 mois et a présenté ses 126 recommandations hier à Berne. Entre autres mesures, davantage de transparence dans la fixation des prix, une meilleure lisibilité des étiquettes des produits alimentaires ou des primes de l'assurance maladie réduites pour les consommateurs qui se nourrissent sainement. L'Assemblée citoyenne n'entend toutefois pas dicter le contenu de l'assiette des Helvètes, mais les faire réfléchir à ce qu'est une alimentation durable. L'un des membres de l'Assemblée, le Fribourgeois établi en Valais, Laurent, répond.
Peut-être que les gens devraient reprendre un peu plus de temps à s'occuper à ça. On a eu souvent aussi l'excuse « j'ai pas le temps, je ne cuisine plus, ça m'intéresse pas, je prends le sandwich à midi ». Ça a tellement grosses implications pour l'environnement, pour notre santé, nos caisses maladies. Par ce qu'on mange, on peut devenir malade. C'est important qu'on se préoccupe de ce qu'il y a dans notre assiette. Et je trouve que cette assemblée est un dialogue très constructif et une possibilité de se refamiliariser ou s'intéresser à ce sujet.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les recommandations de l'Assemblée citoyenne pour une alimentation durable seront discutées dans le cadre du sommet suisse sur les systèmes alimentaires en février prochain. À l'étranger, au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux graves vagues de chaleur ayant affecté le continent durant l'été 2022, selon une estimation encore incomplète publiée hier par l'OMS à l'occasion de la COP27 sur le climat. L'été 2022 a été le plus chaud enregistré sur le vieux continent, provoquant de nombreux records de température et de dramatiques incendies. Ce bilan qui inclut 4 500 morts en Allemagne, près de 4 000 en Espagne, plus de 3 200 au Royaume-Uni et 1 000 au Portugal, devrait augmenter, plusieurs pays ayant rapporté des surmortalités liées à la chaleur, précise le rapport. Et selon un autre rapport de l'ONU publié la semaine dernière, le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, enregistrant une hausse des températures plus de 2 fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des 30 dernières années. En basket, Elphick Fribourg a fait respecter la hiérarchie dimanche au Reposieux. Face au BBC Trois Torrents, les visiteuses ont montré une fois de plus pourquoi elles dominent le basket suisse depuis plusieurs saisons. Contre une équipe chablaisienne dont l'effectif n'est toujours pas complet, les Fribourgeoises n'ont pas eu de peine à s'imposer 87 à 60 et ainsi signer un troisième succès consécutif en autant de matchs. Au terme de ce duel, la coach assistante Katia Clément est revenue sur les différences qui existent entre ces deux équipes.
Tous les matchs, on les aborde de la même manière. On les prépare, on imagine des choses qu'on peut faire, des choses qui ont fonctionné. Dans les 5 premières minutes, ça a fonctionné. Donc après, elles ont l'expérience de leur côté. Et qui dit expérience, dit constance. Et nous, on manque de constance. On fait un bon passage et tout d'un coup, on s'oublie. Un bon passage et on s'oublie. Et en fait, c'est ça la différence entre une équipe comme Fribourg et la nôtre.
Katia Clément au micro de Basile Dayer. Avec ce revers, le BBC Trois Torrents enregistre une deuxième défaite consécutive et occupe le quatrième rang. Prochaine rencontre pour la formation Chorgues samedi prochain sur la terrain de l'Espérance sportive de Puy.